Le journal d'Émilie Moumentaler.
Bonjour, le PCC lance la course à la mairie de Porrentruy. Il présente la candidature de Philippe Eggertwiller lors des élections communales de l'automne prochain. Le conseiller municipal axe son programme sur 10 projets pour la ville et la jeunesse. Une cuisine associative pour éviter le gaspillage. La Louche à Kourou prépare des menus une à deux fois par semaine avec des produits invendus. Elle a conclu des partenariats avec trois petites enseignes de la région. L'arbitrage de la prochaine Coupe du Monde de football aura une touche féminine. 6 dames ont été retenues pour officier au Qatar. C'est une première logique pour l'ancienne arbitre jurassienne Nicole Pétignat. Météo, le Cagnard est encore au rendez-vous aujourd'hui. Le temps sera bien ensoleillé cet après-midi malgré le développement de cumulus. Il fera très chaud avec des maximales à 32 degrés en plaine, 28 à 1000 mètres. Le PCSI ouvre le bal des candidats à la mairie de Porrentruy. Le parti chrétien social indépendant a annoncé aujourd'hui la candidature du conseiller municipal Philippe Eggertwiller lors des élections communales de l'automne prochain. Il est ainsi le premier parti à sortir du bois de la course à la succession du PLR Gabriel Voirol. Philippe Eggertwiller a présenté un programme en 10 points qui va de la revitalisation du secteur de la gare à l'installation d'une maison des associations et de la culture dans le bâtiment des Ursulines en passant par une révision du plan de circulation et de stationnement. Philippe Eggertwiller avait déjà été candidat en 2017, il avait terminé quatrième, ce qui n'a pas entamé sa motivation.
On a une force de parti qui n'est pas forcément la plus grande ici en ville de Porrentruy, mais je suis confiant sur le fait que les gens aujourd'hui veulent un rassembleur à la tête de la mairie, veulent un homme de projet à la tête de la mairie. Et une des grandes satisfactions que j'ai pu voir quand même lors de cette élection, c'est que les gens m'ont plébiscité comme étant l'homme des 100 partis. Donc c'est pour moi une grande fierté et vraiment j'espère pouvoir fédérer un maximum de personnes derrière mon projet.
Vous aviez vous-même pris des décisions qui avaient fait polémique. On pense à la piscine de Porrentruy avec cette idée qui a ensuite été abandonnée de la réserver aux résidents suisses. Ça, c'est pas quelque chose qui, selon vous, a peu un peu brouillé votre image ?
Non, écoutez, je ne crois pas. Ce qu'il faut comprendre par rapport à cette situation, c'est que j'avais des éléments assez importants pour prendre cette décision. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'avec les mêmes informations, je ferai exactement la même chose. Je pense que faire de la politique, c'est aussi prendre ses responsabilités. Je crois que je sais les prendre. En tout cas, sur ce dossier-là et sur d'autres dossiers, j'ai su prendre mes responsabilités. Et je pense que les gens ont apprécié le fait que je puisse apporter un cadre qui les mette en sécurité au niveau de la piscine de Porrentruy.
Philippe Eggertwiller était au micro de François Comte. Il faut une réflexion globale lorsque l'on parle de la répartition des institutions cantonales dans le canton. C'est l'avis des autorités bruntruitaines. Le conseil de ville de Porrentruy a accepté hier soir une résolution interpartie qui fait écho à une motion récemment déposée au Parlement jurassien. Le texte demande de transférer le tribunal cantonal de Porrentruy à Moutier. Hier soir, le maire de Porrentruy, Gabriel Voirol, a pris la parole en début de séance pour évoquer le sujet. Il craint que cette motion, si elle est acceptée, ne crée un déséquilibre de la répartition des institutions cantonales. Gabriel Voirol.
Aujourd'hui, le canton fait un effort important pour essayer de trouver un bon équilibre dans la répartition des différents services de l'État. C'est un travail qui a bien fonctionné jusqu'à présent. Et c'est vrai que cette intervention qui a été faite par un groupe parlementaire est quelque part maladroite, arrive vraiment au mauvais moment et est susceptible de provoquer des remous au niveau de la population alors que l'on souhaite tous accueillir dans les meilleures conditions possibles la ville de Moutier. Donc il était important pour la commune de Porrentruy, en particulier pour son conseil municipal, de signaler aux parlementaires, au gouvernement et à la ville de Moutier que nous avons atteint par téléphone pour leur expliquer la démarche que nous faisions, qu'en effet une telle proposition elle ne s'inscrit pas dans une logique rationnelle. Il y aura un débat, certes les parlementaires ont le choix, mais il est important que les parlementaires sachent aussi que ce genre de décision pourrait avoir une incidence en fait sur l'aspect régionaliste que l'on souhaite surtout éviter lorsqu'on parle d'accueillir une ville telle que Moutier, qui est une ville sœur.
Le maire de Porrentruy, Gabriel Voirol, répondait à Thomas Nagy. Énergie du Jura SA adapte encore le prix de la molécule de gaz en raison de la forte volatilité du marché. Une baisse d'un centime et demi par kilowattheure, soit 18%, interviendra dès le 1er juin. Cette réduction du prix du gaz bénéficiera intégralement aux clients d'EDJ, selon un communiqué transmis aujourd'hui. Les autres composants du prix restent quant à eux inchangés. Et 3 agriculteurs jurassiens ont été récompensés pour leur bravoure. Joël Eicher, Sébastien Eicher et Christophe Fleury ont chacun reçu aujourd'hui à Berne une médaille d'argent de la part de la Fondation pour les sauveteurs Carnegie Suisse. Ces habitants de Corban avaient secouru 5 jeunes femmes de leur voiture en flammes. C'était en mars 2021 sur la route entre Montsevelier et Courchapois. Casser la surconsommation, éviter le gaspillage et miser sur l'écologie, ce sont les objectifs de l'association La Louche, basée à Kourou. Il s'agit d'une cuisine associative qui prépare des menus avec les invendus de certains commerces. Un concept qui a démarré il y a 5 mois maintenant. Loïc Georgie est allé à la rencontre de 2 membres de cette association.
Tous les vendredis à midi et un mercredi sur 2, les personnes devenues membres de l'association peuvent venir déguster un repas à prix variable. La somme demandée n'est en fait qu'indicative. Mais avant de penser à manger, il y a du pain sur la planche, comme l'explique Cédric.
On a des rendez-vous fixes pour aller chez nos fournisseurs de produits invendus. On s'y rend, on regarde ce qui nous plaît. Par la suite, on prend ce qui nous plaît. On élabore un menu pour les jours qui vont venir. Et après, comme je disais, les membres reçoivent un courriel ou un SMS. On les avertit du menu qu'on a préparé et les gens réservent et on se retrouve autour de ce plan de travail.
Vous l'aurez compris donc, le point de départ, c'est la visite chez le fournisseur. L'association arrive chez ce dernier et là, c'est la caserne d'Ali Baba. Choisissez ce que vous voulez, des invendus qui varient de fois en fois, en croire Jonathan.
Ça dépend de la saison, ça dépend aussi de l'endroit où on va le chercher. En général, il y a beaucoup de légumes. On travaille avec un producteur de légumes. Ils nous ont proposé de la viande aussi. Parfois des produits laitiers, mais moins. Mais en général, on reste dans les légumes ou les fruits.
Mais ce n'est pas tout d'avoir du choix. Faut-il encore savoir quoi en faire? Et pour ça, il faut savoir s'adapter à toutes sortes de saveurs. On retrouve Cédric.
On essaie toujours d'innover. C'est un peu ça qui est important. Tout ce qu'on propose, c'est la première fois qu'on le fait, quasiment. Et puis du coup, pour nous, ça nous fait un bon apprentissage. Et puis on peut aussi s'épanouir, c'est créatif. Puis c'est ça qui rend la louche intéressante en fait aussi.
Et si c'est autant possible d'innover, c'est notamment grâce à la diversité des produits de leurs partenaires. La louche travaille actuellement avec 3 petites enseignes de la région et donc pas de gros magasins. Un petit nombre et des petits commerces, mais un travail déjà conséquent aux yeux de Cédric.
Pour l'instant, ça serait vraiment difficile, je pense, de travailler avec plus d'enseignes. Parce qu'avec les 3 associés qu'on a, on a déjà pas mal de produits, puis pas mal de travail par la suite. Si on se développe, je pense que ça serait intéressant d'avoir des autres partenariats, mais pour l'instant, je pense qu'on est déjà très très bien.
Une collaboration qui actuellement permet de servir une dizaine de repas par midi.
Il faudra payer plus cher pour acheter son électricité l'an prochain. Les tarifs devraient augmenter de 20% en Suisse, selon un sondage de l'Association des entreprises électriques suisses dévoilé ce matin. Un ménage de 5 pièces pourrait ainsi débourser 180 francs de plus. Il s'agit d'une première estimation. Les prix définitifs seront disponibles fin août. Ils sont fortement impactés par le conflit en Ukraine, la hausse des prix des combustibles, ainsi que des pannes et des arrêts de centrales. Le Genevois Michel Huissou part en retraite cet été. Ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est pourtant dans le microcosme fédéral un homme qui compte. Il dirige le contrôle fédéral des finances. C'est l'organe qui vérifie que chaque franc dépensé par la Confédération l'est à bon escient. Michel Huissou détonne aussi par son franc-parler qui lui vaut pas mal d'inimitié. Il est ainsi venu en personne présenter son dernier rapport annuel ce matin à Berne. Les précisions de notre correspondant Serge Hubin.
Michel Huissou est le poil à gratter de la Confédération, celui qui dérange, met le doigt sur les anomalies, dénonce parfois avec fracas. Dans une administration fédérale souvent très et trop lisse, il détonne et il est craint. Michel Huissou, c'est une carrière de 34 ans au contrôle fédéral des finances qui s'arrête à fin août à l'heure de la retraite. À son tableau de chasse, des tarifs médicaux ambulatoires surfaits, l'insuffisance de l'alimentation du fonds de désaffectation des centrales nucléaires et de gestion des déchets nucléaires ou encore la mise en lumière d'écarts cantonaux dans l'application de la loi fédérale. Il pose lui-même cette question. Est-ce respecter la volonté du législateur qu'une demande de prestations complémentaires soit refusée en moyenne dans 18% des cas dans certains cantons généreux, mais dans 44% des cas dans d'autres cantons plus sévères? L'une des dernières études du contrôle des finances concernait la manière diverse dont sont traités les cantons par l'administration fédérale, trop inégale à son goût.
En 2021, le contrôle fédéral des finances a surtout surveillé la juste utilisation de l'argent de la Confédération en lien avec la pandémie. On retrouve Serge Hubin.
DRHT en particulier, le contrôle fédéral des finances s'appuie sur les donneurs d'alerte, près de 500 annonces en 2021, évoquant l'utilisation douteuse des DRHT en lien avec la pandémie. Le contrôle des finances a clôturé 84 cas, dont 54 présentent des versements non justifiés, 7 de manière frauduleuse. Des demandes de remboursement pour 9,9 millions de francs ont été émises et à la fin de l'année dernière, 414 cas douteux restaient ouverts au SECO.
Les forces russes continuent d'accroître leur contrôle sur les territoires du Donbass. Moscou a presque achevé la conquête de la région ukrainienne de Lugansk dans l'est du pays. C'est ce qu'assure ce matin le ministre russe de la Défense. Il a ajouté que plus de 1900 militaires ukrainiens retranchés sur le site sidérurgique d'Azovstal de Mariupol s'étaient rendus. Le suspense va prendre fin cet après-midi en France. Le nouveau gouvernement sera dévoilé dans la journée. L'Élysée l'a indiqué ce matin. La première ministre Elisabeth Borne va présenter son équipe 4 jours après sa nomination. Ce nouveau gouvernement se réunira dès lundi pour un conseil des ministres à 3 semaines du premier tour des législatives.
RFJ, il est 12h26.
Sport.
C'est officiel, la Super League passera de 10 à 12 équipes dès la saison 2023-2024. Les 20 clubs de la Swiss Football League ont donné leur aval lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SFL, aujourd'hui à Ittigen. Ils ont également décidé du futur déroulement du championnat. Des matchs à élimination seront notamment organisés pour le titre, les places européennes et la relégation. Nous y reviendrons plus en détail à 18h. Et le ballon rond évolue avec son temps. 6 femmes arbitreront cet hiver lors de la Coupe du monde masculine de football au Qatar. La FIFA a annoncé hier que 3 d'entre elles officieront comme arbitre principal, les 3 autres en tant qu'assistantes. C'est une première dans l'histoire de la plus prestigieuse compétition du ballon rond. Pour la jurassienne Nicole Pettinia, ancienne arbitre internationale, il s'agit d'un non-événement.
Ça ne me fait rien du tout parce que franchement, c'est normal. Je ne vois pas la différence entre une femme et un homme par rapport à l'arbitrage. Donc pour moi, c'est normal.
Est-ce que c'est quand même pas un plafond de verre qui se brise?
Non, pas du tout, parce qu'on a la VAR. Hein. S'il n'y avait pas eu la VAR, je ne suis pas sûre qu'on les aurait pris. Il a fallu attendre la VAR pour que la condition physique soit moins importante. Moi, ça m'est égal, que ce soit une arbitre ou un arbitre. Moi, c'est la qualité, la capacité. Et puis, le jeu est plus intéressant que celui qui siffle. Je suis désolée, moi, le spectacle, c'est les joueurs qui le font. Moi, je profite du match, je ne profite pas de l'arbitrage.
Donc du coup, là, on se recentre sur les qualités, les connaissances du jeu et du règlement.
Oui, exactement, exactement. Mais, force balistique, moi, je ne me pose pas de questions par rapport... Elles sont autant capables qu'un mec, mais par rapport à l'acceptation de la femme sur un terrain de foot au Qatar. Ça risque d'être très... intéressant à mes yeux.
Nicole Pettinia était au téléphone de Nicolas Meusy. Notez qu'aucun Suisse ne figure dans la liste des 129 arbitres qui siffleront lors de la Coupe du Monde qui se tient de novembre à décembre au Qatar. Le trophée jurassien relance la machine. Il commence demain avec la Narcisse Run en Haute-Ajoie. Le programme des courses à pied et de VTT est à nouveau complet. Après avoir été raccourci l'an dernier et annulé il y a 2 ans en raison de la pandémie de coronavirus, l'épreuve jouera cette année entre stabilité et nouveauté, explique Camille Borua, la responsable des relations médias du trophée jurassien.
Alors, je pense que l'esprit va rester le même. Un trophée jurassien qui se veut populaire pour promouvoir la pratique de la course à pied et du vélo. Après, au niveau du programme, il va quand même y avoir quelques changements, donc des courses qui sont enlevées et des courses qui sont rajoutées. Il y a à nouveau maintenant la course à pied au col de Montvoix. Il y aura et la course à pied, les 7 km et le VTT qui sera compté pour le trophée jurassien.
Au final, ça nous donne un programme avec 8 courses de VTT, 8 courses à pied. Cet équilibre, il est important pour vous?
Je pense qu'il est important. Après, ce n'est pas un but ultime. Il y a une volonté de non plus pas avoir trop de courses au sein du trophée jurassien. Ça fait déjà un programme assez chargé pour les coureurs. Donc, ne pas les surcharger et puis que l'important, c'est qu'ils viennent vraiment à nos courses.
Camille Borua répondait à Marceline Michon. Le trophée jurassien commence demain à Danvant avec la Narcisse Run. 8,8 km sont au programme de cette première épreuve de course à pied. Vous retrouvez le programme complet du trophée jurassien sur notre site rfj.ch. Merci pour votre écoute et bel après-midi.